Le dispositif de protection des données personnelles a permis l'élaboration progressive d'un modèle qui s'est ancré dans la pratique française. Nous avons eu l'occasion d'en parler ce matin. La loi du 6 janvier 1978 perdure, même si elle a fait l'objet de modifications, notamment en 2004, sous l'effet des évolutions issues des nouvelles technologies. Les collectivités locales qui recourent aux nouvelles technologies pour produire les services publics qu'elles offrent aux administrés doivent donc se conformer aux principes fixés par le législateur de 1978 puis de 2004. Mais au-delà, il apparaît de plus en plus que les collectivités locales deviennent, à l'ère du numérique, des acteurs à part entière de la protection des données personnelles des citoyens vivant sur leur territoire. Voyons tout d'abord dans un premier axe à quoi les collectivités locales sont soumises par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Cette loi énumère un certain nombre de principes que les collectivités locales doivent respecter. D'une part, parce qu'elles doivent se conformer à ces exigences, et d'autre part, parce que le développement des nouvelles technologies les y conduit. Alors, la loi de 1978 modifiée définit un certain nombre de principes qu'il convient de connaître. Cette loi s'ouvre sur un principe général qui fixe une orientation au développement de l'informatique. Il s'agit précisément de mettre l'informatique au service de chaque citoyen. Pour ce faire, l'informatique ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Cette préoccupation a conservé toute son actualité à l'ère du numérique. Quels sont ces principes énoncés par la loi ? Alors, tout d'abord, la loi de 1978 modifiée en 2004 définit des règles à respecter pour procéder au traitement des données à caractère personnel. Il faut, en premier lieu, procéder à la collecte et au traitement de ces données de manière loyale et licite. En outre, ces données doivent être collectées et traitées pour des finalités déterminées. En d'autres termes, ces données ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Ainsi donc, une collectivité locale qui traite des données personnelles doit y procéder pour un usage déterminé, explicite et légitime en rapport avec ses missions. Nous verrons que ce principe de finalité est là en filigrane. C'est un objectif transversal de cette loi et nous aurons l'occasion de le revoir en détail. Les données personnelles doivent également être pertinentes et nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Ces données collectées et traitées doivent être exactes et mises à jour. Dans le même sens, ces données personnelles sont conservées pendant une durée limitée, ne dépassant pas le temps nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Enfin, le traitement des données à caractère personnel doit être réalisé avec le consentement de la personne concernée. À ces principes sont attachés un certain nombre de définitions ou de notions qu'il convient de connaître pour le traitement de ces données. Le législateur de 1978, relayé en 2004, s'est préoccupé de donner une définition précise à la notion de données à caractère personnel, à celle de son traitement et à celle du fichier correspondant. D'une part, est considérée comme une donnée à caractère personnel, selon la loi, toute information relative à une personne physique, identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. D'autre part, le législateur a pris soin de définir la notion de traitement de données à caractère personnel. Il s'agit de toute opération portant sur des données sans restriction quant aux procédés techniques utilisés, à savoir, et il faut les énumérer, la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement, l'interconnexion, le verrouillage, l'effacement ou la destruction. On voit bien là que le législateur a pris soin de définir une notion assez large du traitement de données à caractère personnel, et on peut lui être reconnaissant dans la mesure où cette définition très large s'adapte assez facilement aux évolutions technologiques. Enfin, et selon cette même approche, la loi a défini la notion de fichier de données à caractère personnel. Ce support peut être constitué par tout ensemble, selon les termes de la loi, structuré et stable de données à caractère personnel, accessibles selon des critères déterminés. Voilà les principes et les notions au plan général. Il importe maintenant de s'interroger à des catégories particulières de données personnelles. Ce sont les données ce sont des données auxquelles les collectivités locales peuvent être confrontées dans le cadre des traitements dont elles ont la charge. Et là encore, on va se référer à la loi de 1978 modifiée pour avoir une définition de ces données particulières. La loi de 1978 interdit le traitement de certaines informations mentionnant directement ou indirectement les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou l'appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci. Ces données considérées comme sensibles ne peuvent faire l'objet d'un traitement, sauf exception prévue par la loi. Et le traitement de ces informations doit être autorisé par la CNIL. Au nombre des traitements qui font l'objet d'une autorisation par la Commission nationale informatique et liberté figurent notamment ceux qui portent sur les données parmi lesquelles figure le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, de façon abrégée, le NIR, le numéro d'inscription au répertoire d'identification des personnes physiques. Considéré comme une donnée sensible par la loi informatique et liberté, ce numéro est, on peut l'imaginer, strictement encadré dans son utilisation. Ce numéro est un numéro unique comportant une chaîne de caractères permettant de déterminer le mois et l'année de naissance, le département et la commune de naissance en France, ou, le cas échéant, une référence indiquant une naissance à l'étranger. Ces données personnelles donc expliquent que le législateur a voulu encadrer davantage l'utilisation de ce numéro. La CNIL a ainsi été amenée à se prononcer sur l'utilisation du NIR. Dans une de ses délibérations, elle a, tout en rappelant la crainte relative à l'interconnexion des fichiers, a recommandé que l'emploi du NIR, du numéro d'inscription au répertoire, l'utilisation de ce NIR en tant qu'identifiant, ne doit être, selon la CNIL, ni systématique ni généralisée. Donc l'utilisation qui peut être faite de ce numéro doit répondre à ses exigences d'absence de généralisation et de systématisation. Concernant l'utilisation de ce numéro par les collectivités locales, la CNIL a eu l'occasion de se prononcer dans un certain nombre de délibérations. Elle a, par exemple, interdit l'utilisation l'utilisation du NIR dans le traitement automatisé d'informations par lesquelles les collectivités locales voulaient procéder à la facturation des services qu'elles offraient aux parents dans la commune. La finalité de ces traitements concernait donc uniquement à la mise en recouvrement des sommes dues. La CNIL a exclu l'utilisation de ce numéro. Au contraire, dans une autre délibération, la CNIL a rendu un avis favorable concernant un projet de décret qui lui avait été soumis en vue de permettre l'application du même traitement en matière d'enregistrement au répertoire national d'identification des personnes nées en métropole, dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités d'outre-mer. Étant précisé que le projet de décret dont la CNIL a été saisie visait à modifier le décret de 82 qui ne permettait d'inscrire au répertoire dès leur naissance que les personnes nées en métropole et dans les DOM. Par conséquent, les personnes nées dans les territoires d'outre-mer, à Mayotte et à l'étranger, n'y étaient inscrites qu'à la demande d'une personne habilitée à utiliser le répertoire. Par cette délibération, la CNIL a permis de se prononcer de façon favorable à l'inscription de plein droit au répertoire des personnes née sur l'ensemble du territoire de la République. Elle a, ce faisant, permis aussi l'utilisation par les instituts territoriaux de la statistique de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française de se NIR pour la gestion de leurs répertoires respectifs. La différence avec la délibération évoquée précédemment concernant la facturation de services offerts par les collectivités locales aux parents, c'est que la finalité, et c'est pourquoi j'insistais tout à l'heure, la finalité ici consiste à rétablir une égalité de traitement qui passe nécessairement par l'utilisation du NIR. Or, dans le cas de la facturation des sommes dues, il est aisé de comprendre que ce NIR n'est pas indispensable. Enfin, et pour faire un peu plus vite, la CNIL a dans d'autres délibérations encadré l'utilisation du NIR par les collectivités locales dans des fichiers de traitement en prévoyant un procédé permettant de les sécuriser. Elle a par exemple recommandé de s'assurer que l'accès aux fichiers est limité à un nombre de personnes strictement limité. Et elle a aussi recommandé un mécanisme de traçabilité permettant d'enregistrer toute action effectuée sur le système. Bien. Alors, on voit là que les collectivités locales sont tenues de se conformer à ces exigences issues de la loi Informatique et Liberté. Elles sont aussi particulièrement concernées par d'autres exigences qui sont liées au développement des nouvelles technologies. Brièvement, puisque le temps me manque, il faut d'une part s'intéresser dans ce cadre aux logiciels, qui en eux-mêmes ne relèvent pas de la loi de 1978, mais l'utilisation des logiciels peut s'avérer non conforme aux prescriptions de la loi, lorsque ces supports permettent de traiter des données à caractère personnel. Donc l'utilisateur d'un logiciel doit en ce cas s'assurer que le traitement de ces données est conforme à la loi de 1978 modifiée et que l'accès à ces données est circonscrit aux responsables de traitement. Il faut aussi évoquer le cas des téléservices, puisque les collectivités locales offrent des téléservices à leurs administrés, tels que l'état civil, par exemple. Ces téléservices qui visent à simplifier les formalités administratives des usagers doivent respecter les exigences définies par la loi de 1978. Ainsi, la collecte, le traitement, le stockage des informations recueillies doivent s'opérer en conformité avec les règles fixées par le législateur que je viens d'évoquer. Donc, on le voit, les collectivités locales sont de plus en plus soumises à des dispositions très précises et très strictes en matière de traitement de données à caractère personnel, et c'est pourquoi l'évolution semble aller dans le sens d'une tendance dans laquelle les collectivités locales seraient particulièrement au cœur de ce processus de protection des données personnelles. Les enjeux liés au développement du numérique ont pour effet d'accroître précisément la responsabilité des représentants des collectivités locales, qui sont eux les responsables des traitements. À bien des égards, les obligations des maires, par exemple, sont de plus en plus précises et plus fortes, compte tenu de ce dispositif législatif que je viens de décrire et compte tenu du développement des nouvelles technologies. Ainsi, pour prendre l'exemple de l'état civil que j'évoquais à l'instant, les maires assurent en leur qualité d'officier d'état civil la tenue de ces fichiers. Il importe de mentionner que les services qui en ont la charge recours à des applications informatiques pour remplir leurs missions, tenue des registres, rédaction des actes, etc. Il faut donc que ces données enregistrées par ces services à l'occasion de l'établissement d'un acte de l'état civil demeurent circonscrites à la mission que le maire est chargé de remplir en ce domaine. En outre, ces données ne doivent être communiquées qu'aux destinataires juridiquement fondés à les recevoir ou en avoir connaissance, et ce, dans la limite de leurs attributions. On le voit donc, pour un acte aussi quasiment banal de la tenue des fichiers de l'état civil, on voit là le développement des enjeux liés au numérique et à l'accroissement de la responsabilité des maires. Un autre exemple serait celui de la liste électorale. Et l'actualité nous pousse à choisir cet exemple. Il importe de rappeler que le maire, en tant qu'agent de l'État, est chargé d'assurer la gestion de la liste électorale, de sa mise à jour. Et il est aussi, particulièrement en période électorale, candidat à sa réélection. Les services municipaux peuvent donc communiquer la liste électorale aux personnes qui sont habilitées à demander cette liste électorale par la loi. Il peut s'agir, selon le code électoral, d'un électeur, d'un parti politique ou autre. Cette communication peut être faite sur un support informatisé. Cet exemple de la liste électorale est intéressant parce que se pose la question de savoir si le maire peut utiliser sous certaines conditions la liste électorale pour communiquer avec ses administrés, particulièrement en ciblant les personnes selon des critères fondés sur l'âge ou la localisation. Les critères visant à sélectionner les populations en fonction d'éléments susceptibles de faire apparaître les origines raciales, ethniques où les appartenances religieuses ne sont pas autorisées, on l'a compris, avec les développements antérieurs. Et la CNIL considère que le critère fondé sur le lieu de naissance ne se justifie pas au regard de la finalité poursuivie. Elle a eu l'occasion de le rappeler dans une de ses délibérations. Donc on peut utiliser la liste électorale pour communiquer avec les administrés en sélectionnant le critère de l'âge ou de la localisation, mais pas du lieu de naissance. Combien de temps me reste-t-il, Monsieur le Président ? D'accord. Alors, dans ce cas, ça me permet de prendre un autre exemple. Les collectivités locales et leurs groupements se placent également au cœur du dispositif de protection des données personnelles en ce qui concerne la documentation cadastrale, le cadastre. Cette documentation est utile aux collectivités locales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Or, le cadastre comprend des données personnelles telles que l'identité des propriétaires fonciers, la date et le lieu de naissance, encore une fois, des éléments relatifs à la situation fiscale. Pour informer le public, les collectivités locales peuvent indiquer l'adresse d'un bien, sa valeur locative, le nom et l'adresse du propriétaire, à l'exclusion, nous y revenons, à l'exclusion de la date et du lieu de naissance ou des éléments de nature fiscale. Par exemple, le cas d'exonération de taxes foncières lorsque cela existe. De même, l'accès à l'application informatique des informations cadastrales doit respecter ses limites. En ne permettant l'accès qu'à la localisation d'une parcelle, au nom et à l'adresse du propriétaire. Dans l'une de ses délibérations très récentes de 2012, la CNIL a eu l'occasion de rappeler qu'aucun numéro identifiant ne doit figurer dans le fichier des données cadastrales. Concernant maintenant la transmission des données cadastrales sur un poste de travail, celle-ci doit faire l'objet de mesures de sécurité renforcées et l'accès doit en être limité aux services municipaux concernés. Il est à noter que la CNIL souligne le risque que comporte la diffusion des données cadastrales sur un site internet public, à savoir l'utilisation à des fins autres que celles autorisées par la loi, sans le consentement des personnes concernées. Les représentants des collectivités locales doivent donc veiller à respecter les dispositions de la loi à l'heure où elles sont appelées à utiliser des supports numérisés au quotidien pour le traitement de données personnelles. L'ampleur de leurs tâches et des responsabilités qui sont attachées justifie pleinement le recours à un relais interne par le correspondant informatique et liberté. L'application de la loi du 6 janvier 1978, dont il est bon parfois de rappeler qu'elle est relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ne repose pas uniquement sur son volet répressif. En effet, la modification dont a fait l'objet ce texte en août 2004 a été l'occasion d'introduire un aspect préventif de la protection des droits et libertés à l'égard des traitements automatisés. Cette évolution mérite d'être soulignée à l'égard des collectivités locales qui procèdent quotidiennement au traitement de données personnelles et dont les représentants sont de plus en plus exposés à voir leur responsabilité engagée en cas de méconnaissance des règles de protection de ces données. Dans la perspective d'aplanir ces risques et d'œuvrer de manière préventive, encore une fois, a été institué par la modification de 2004 le correspondant informatique et liberté que l'on désigne par l'acronyme CIL. Son rôle consiste à favoriser en amont, d'où l'aspect préventif, son rôle consiste donc à favoriser en amont une meilleure application de la loi de 1978 modifiée. Il est chargé d'assurer de manière indépendante la sécurité des données personnelles, notamment en empêchant qu'elles soient déformées, endommagées ou que des personnes non autorisées y aient accès. Le correspondant informatique et liberté peut être désigné par tout responsable de fichier, donc, y compris par les représentants des collectivités locales. Et il est bien de préciser que cela concerne aussi bien le secteur public que le secteur privé, mais cela n'est pas notre sujet. Le correspondant informatique et liberté devient un atout précieux pour les collectivités locales en contribuant justement à réduire les risques qui pèsent sur les représentants de ces collectivités qui sont en même temps responsables des traitements. Et l'on voit se développer petit à petit des conventions de partenariat entre la CNIL et des associations de maires, comme on a pu le voir avec une convention entre la CNIL et des associations de maires de Meurthe-et-Moselle. Alors, il s'agit là encore de favoriser en amont une meilleure connaissance des exigences, des principes définis par le législateur de 1978. Voilà se développer les enjeux liés au traitement des données personnelles au regard des droits et libertés. Et l'ampleur de ces enjeux contribue à faire ressurgir le débat sur une reconnaissance renforcée de cette protection des données. Ce débat s'est déroulé en 2008. La question a été posée de savoir s'il fallait reconnaître une protection constitutionnelle de ces données. Les sages se sont prononcés, les sages du comité responsable de ces questions se sont prononcés de manière défavorable. La CNIL, en 2008, quant à elle, appelait de ses voeux une telle protection. 4 ans plus tard, à mon sens, le débat n'est pas clos. Au contraire, le développement des nouvelles technologies et les atteintes réelles au potentiel qui peuvent en découler sur les droits des administrés démontrent avec force qu'une reconnaissance renforcée de la protection de ces données est en phase avec le développement de la société numérique. Dans ce contexte, et à l'heure où, au niveau européen, émergent des projets en faveur d'une meilleure protection des données personnelles et de la vie privée, les collectivités locales sont ainsi amenées à jouer un rôle de premier plan en matière de protection des droits et libertés des citoyens vivant sur leur territoire. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Madame Boisdana, pour votre exposé à la fois très complet et très riche et en face sur l'actualité. En plus de ça, vous avez réussi à le faire en 24-25 minutes. J'ai divisé 120 minutes par 5, ça fait 24, sauf erreur de ma part. Je préfère que les exposés se suivent et qu'ensuite il y ait des discussions pour que tout le monde puisse s'exprimer autant qu'il le souhaite, tous les intervenants puissent s'exprimer autant qu'ils le souhaitent.